Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Nous sommes en direct de Fréquence Mistral Digne pour le magazine régional À la bonne heure et aujourd'hui nous accueillons deux professionnels de la nature et de l'aventure, Nelly Kars et Bruno Lambert. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Tiffany.
Et bonjour.
Bonjour Odile, bonjour tout le monde.
Et oui, on remercie aussi Odile à la régie. Vous avez tous les deux fondé Octopus Productions. C'est une société de production audiovisuelle dans les Alpes de Haute-Provence qui existe depuis 2017, c'est ça ?
C'est ça.
Super. Nous vous avions déjà reçu à deux reprises cette année en 2024, au mois de février, également au mois de mai, pour présenter le projet Posidonia. Alors, pour les auditeurs, les auditrices qui ne vous connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore entendu parler du projet, est-ce que vous voudriez bien vous présenter, présenter vos parcours respectifs et le projet Posidonia ?
Je laisse commencer.
Oui, Octopus Productions a été créé il y a une dizaine d'années, mais en fait, est en collaboration avec un programme d'exploration qui s'appelle Les Marcheurs de la Terre. Les Marcheurs de la Terre, donc, c'est un programme d'éducation environnementale et d'exploration que j'ai fondée en 1995 au retour du pôle Nord, donc ça date pas d'hier. Ça fait donc maintenant 40 ans qu'on associe, on va dire, de l'aventure sportive ou de l'exploration scientifique à de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement. Donc avant d'arriver, de travailler sur la Méditerranée, bah, effectivement, les marcheurs de la Terre, c'était l'Amazonie, enfin ça l'est encore d'ailleurs, hein, les banquises arctiques, antarctiques, les déserts, les hautes montagnes, l'Himalaya, etc., etc. Toujours avec un focus sur les grandes problématiques environnementales du moment. Du moment, c'est important parce qu'en fait, au début des marcheurs, on commençait donc à lancer des messages d'alarme sur le réchauffement climatique. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est complètement rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, ben, avec le projet Posidonia, on est en train de se dire qu'on va légèrement infléchir le message sur des messages de résilience. Voilà, sans pour autant occulter donc, les aspects négatifs, je dirais, liés à l'écologie et à l'environnement. En 2017, donc Nelly a, je vais lui laisser la parole après, hein, t'inquiète pas, a nagé donc 100 km sur tous les grands lacs de PACA pour faire un focus sur la sensibilisation sur l'eau douce. Alors c'était une nage autonome, c'est-à-dire qu'elle nageait avec sa bouée, avec donc son autonomie alimentaire et médicale. Et ça a été pour nous l'occasion de faire un film qu'on a appelé donc La Dame des Lacs. Et en fait, les médias se sont emparés du titre et Nelly Kars est devenue La Dame des Lacs. Voilà. Et puis après, on a donc monté une série de films, c'est la série Water Stories, et le film Posidonia, c'est le sixième de la série sur l'eau. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais peut-être laisser la parole à la Dame des Lacs.
Alors Posidonia, finalement, c'est ni plus ni moins la version maritime, en fait, de ce qu'on a fait à l'époque de la Dame des Lacs. Donc il y a une grande nage qui s'est déroulée cette fois-ci surtout 2024. Sur la côte méditerranéenne, entre Marseille et Menton. L'idée donc était vraiment de faire un focus sur l'état de la Méditerranée et également un témoignage assez objectif de ce qu'on peut voir sur les secteurs qu'on a sélectionnés. Et donc c'est un challenge, hein, une aventure sportive. Un film de 52 minutes qui relate cette aventure et un projet éducatif dont on parlera plus tard. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que sur ce challenge, ok, il y a une grande aventure, elle est magnifique. Il y a énormément d'acteurs locaux, en fait, qu'on a pu rencontrer. Et dans le documentaire, effectivement, on se met en avant, mais il faut le dire carrément, hein, c'est une accroche. C'est une accroche réelle, une accroche médiatique, une accroche pour attirer l'attention du public, parce qu'on parle d'une aventure. Et ensuite, on se met en retrait et on donne la parole à d'autres, des personnes qui se bougent énormément, en fait, pour la préservation du littoral. Ce qu'il en résulte, en fait, après une année de recul, c'est que, ok, il y a des impacts. Il y a énormément de personnes qui font des actions qui sont efficaces. Et la Méditerranée, pour peu qu'on la laisse un petit peu respirer, elle est vraiment, vraiment résiliente, quoi. Et ça, c'est magnifique.
Alors ça, c'est l'ensemble du projet Posidonia. On en avait parlé en début d'année quand ça a démarré. Est-ce qu'on peut savoir où vous en êtes maintenant, à quelle étape du projet on en est ?
Ah oui. Alors, la nage en elle-même est terminée. Donc, c'est une nage, donc il y a eu 407 km qui ont été faits entre Marseille et Menton, surtout 2024. Ça s'est terminé, je crois, le 15 novembre, c'est ça, il n'y a pas très longtemps.
Oui, le 15 novembre, et c'était la 38e étape.
Donc, en fait, il faut vraiment être très clair. On ne revendique pas un exploit. C'est une grande aventure. C'est physique. C'est engagé. Mais ce n'est pas un exploit. Si, par exemple, j'avais nagé 400 km jour après jour, oui, ce serait un exploit. Mais là, ce n'est pas le cas. Et là, cette fois-ci, je nageais pas seule en autonomie, mais par contre avec Bruno. C'est-à-dire que Bruno, lui, était en kayak, à la fois pour faire l'assistance en kayak, mais également pour faire tout le tournage, on va dire, nautique. Donc, pour ce documentaire, on a récolté quand même pas mal d'images de ce qu'on a pu voir, que ce soit sur l'eau ou sous l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment un double point de vue. Ce double point de vue est vraiment intéressant parce que finalement, on ne voit absolument pas la même chose. De même que parfois, moi, sous l'eau, je ne voyais strictement rien pour cause de manque de visibilité. Le témoignage, c'était celui de Bruno. Donc aujourd'hui, la nage est terminée. On a déjà commencé à faire nos premières interventions du projet éducatif. Déjà pendant toute la partie de challenge, en fait, à chaque fois qu'on revenait d'une mission sur la côte, on postait sur le site de Doctopus Productions et également sur la page Facebook des Marcheurs de la Terre, on postait, on va dire, un bulletin de route qui récapitulait ce qu'on avait vécu, les grandes étapes, des thématiques sur lesquelles il fallait sensibiliser le grand public. Les bulletins de route étant mis en ligne pour tous, mais étaient quand même particulièrement destinés aux scolaires. Et ces bulletins de route étaient associés avec des vidéos, donc des montages, on va dire très courts-métrages, de 2 à 5 minutes chacun. Donc il y en a une dizaine. Et on a déjà pu commencer à travailler avec, c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que à la base, nous, on fait des documentaires qui sont diffusés en télé, mais notre travail, il est surtout celui qu'on mène auprès du grand public. Donc, on rencontre les gens et on essaie de sensibiliser avec nos outils, avec nos témoignages, avec notre bagot, avec notre passion. Et c'est très interactif, il y a beaucoup d'échanges. Et là, on était à peine sortis de l'eau qu'on s'est retrouvés invités au festival Galatea. Donc, c'est un festival international du monde marin et sous-marin, ailleurs. Et donc, pendant 4 jours, on s'est littéralement régalé à pouvoir partager ce qu'on avait vu et vécu. Et je trouvais que c'était une belle manière de faire confiance dans ce projet, finalement. Et donc, on a commencé déjà à travailler avec cet aspect-là, on va dire, du projet. Et par contre, il y a un film encore à monter, qui n'est pas monté. Donc, le film sera finalisé pour l'été. C'est une coproduction France Télévisions, ce qui signifie qu'au départ, il sera diffusé sur France Télévisions, ce qui ne nous empêche pas, nous, après, on va dire en parallèle, de travailler en ciné-débat, conférences, formations, scolaires avec. Et au jour d'aujourd'hui, il y a encore un film à faire. Donc, l'aventure n'est pas terminée. C'est une grande aventure de faire un 52 minutes. Ça se fait pas en... Ça se fait pas comme ça. On a pas mal de tournages complémentaires à faire. On a interviewé tous nos acteurs du film. Hein. C'est déjà fait, mais il y a quand même pas mal de tournages complémentaires derrière. Et puis après, il y a une autre aventure qui elle-même est finalement, on va dire, le but de tout ce travail en amont. C'est de continuer à travailler auprès du public avec ces supports-là. Parce que c'est quand même ça, en fait, qui est important pour nous. Hein. C'est bien un film qui est diffusé en télé, mais les gens, on sait très bien comment c'est la télé. Les gens zappent, ils passent à 23h le film, les gens sont crevés. On voit des belles images, on digère vaguement quelques messages. Mais nous, on a tendance à faire des films où on met vraiment du contenu. On fait rêver par des belles images, mais on met vraiment du contenu. Et 52 minutes, c'est vraiment très très court pour mettre du contenu. Surtout pour parler de l'ensemble d'un littoral où finalement chaque tête de chapitre mériterait un film à part entière. Donc du coup finalement c'est là qu'on peut vraiment travailler sur ce contenu, c'est quand on travaille en ciné-débat auprès des gens. Là c'est intéressant parce que les gens vont visionner le film et après il y a les débats avec les réalisateurs et puis bon, on est limité en termes de temps, mais on finit dehors, c'est pas grave. Hein. Donc aujourd'hui on en est là au niveau du projet.
Ouais, ben, le challenge a été bouclé à Menton, donc c'était une très très belle journée. Il nous restait 7 ou 8 kilomètres à faire. Donc ça s'est fait, c'était très très agréable, quoi. Et puis il faut savoir que le challenge, donc effectivement, a débuté au tout début janvier ou fin janvier, je ne sais plus exactement. Donc l'eau dans les calanques de Marseille était à 10 degrés à cette époque. Et avec des maxis qu'on a trouvés sur la fin de l'Estérel, on va dire à la fin de l'été, à 29 degrés. Donc c'est quand même une sacrée amplitude. Au total, il y a eu 38 étapes d'une moyenne de 11 km. Alors, c'est une moyenne parce qu'il y a eu des étapes qui étaient très très courtes parce que la météo était parfois très mauvaise. Alors quand je dis courte, c'était une nage exploratoire, c'est-à-dire très très localisée, de 3 à 4 km. Les plus longues devaient faire à peu près 15 km. Et ça me permet de rebondir sur le côté aventure sportive. Donc les gens qui pratiquent la nage en eau libre et le kayak, bon, ce sont deux activités complètement différentes. C'est vrai que de faire 410 km, 407 km pour un kayakiste de mer en 38 étapes, c'est pas très difficile. C'est vraiment, c'est pas difficile, ça, on va dire, ça fait 40 balades, quoi, c'est tout, quoi. Ma difficulté, c'était vraiment de réaliser les images pour le tournage, de m'occuper de l'hélice pour l'aspect sécuritaire, parce qu'en fait, autant les saisons d'hiver, d'automne et de printemps, on va dire, sont assez libres d'usagers. Il n'y a pas beaucoup de bateaux. Par contre, quand on arrive au pic de l'été sur des secteurs comme l'Estérel, la Riviera, bon, bah, effectivement, il y a des bateaux partout. Et là, moi, je suis obligé de faire le chien de garde. Voilà. L'exploit sportif, s'il devait y en avoir un, c'est beaucoup plus pour la nageuse, mais pas pour le kayakiste. Moi, il est beaucoup plus technique, on va dire. Avec tout cet aspect, donc je regarde devant, je regarde derrière, j'anticipe sur le bateau qui vient ici, à droite, à gauche, patati patata. Et c'est vrai qu'au cœur de l'action, c'était difficile. Au point que, si globalement, l'aventure s'est très très bien passée, au pic de l'été, c'était à Hagué, si mes souvenirs sont bons, on est parti sur une plage grand public, donc une mise à l'eau très très facile. Et on était sorti des chenaux de navigation, parce qu'en fait, il y a plein de chenaux l'été. Il y a des chenaux pour les jet skis, les bateaux moteurs, les kites, etc. etc. Et à un moment donné, il y a un Zodiac qui fonce sur nous. Heureusement, pas très vite, mais ça reste quand même un Zodiac. Donc j'ai dû m'interposer donc, entre Nelly et le bateau, sinon elle se faisait lacérer par l'hélice. Donc conclusion, je lui ai tapé la tête avec mon étrave, elle a été sonnée. Elle n'était pas du tout contente, mais elle n'avait pas compris sur le coup qu'effectivement c'était ça ou le bateau. Donc du coup, et pour la petite histoire, donc quand j'ai fait des grands signes au bateau, c'était un petit gamin de 7-8 ans qui pilotait le bateau avec ses parents qui étaient à l'avant en train de bronzer. Voilà. Donc ça arrive. Alors ça permet de faire le lien avec les différentes nuisances qu'on peut rencontrer sur le littoral. Littoral, terre et mer. Donc globalement, on va dire que... les pics d'incivisme, c'est l'été, sur les zones à très forte fréquentation. Voilà. Mais il ne faut pas focaliser dessus. C'est vrai qu'il y a un excès en tout. Excès de bruit, excès d'agitation, excès de chasse sous-marine, etc. etc. Et du coup, automatiquement, là où il y a du monde, il y a du mouvement, et quand tout est concentré, ça devient potentiellement dangereux. Par contre, tout le reste, on va dire, sur l'hiver, le printemps et la fin de l'automne, là, c'était relativement tranquille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, s'imaginer... que les gens ont un comportement néfaste toute l'année sur le littoral. C'est faux. On est vraiment sur le cœur de l'été, où il y a effectivement une concentration de personnes, ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut devenir très pénible, surtout pour les habitants, pour les locaux, quoi. Voilà. Maintenant, il est évident que tous ces gens-là, il faut qu'ils viennent en vacances et qu'ils profitent aussi de ces paysages. Donc, mais pour une personne, à la limite, qui vous rentre dedans en bateau, il y en a des milliers qui se comportent très bien. Il faut aussi faire la part des choses. Au niveau des nuisances environnementales... Il faut m'arrêter si je parle trop, hein. Parce que Nelly a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, c'est intéressant parce que, bon, là, les auditeurs ne le voient pas, mais on a 20 ans d'écart avec Nelly. Nelly est née sur une génération où, en fait, tous les messages d'alerte arrivaient sur la Méditerranée. J'étais le premier, moi, à les diffuser aussi. Voilà, la Méditerranée, sur les pôles, sur les forêts tropicales, etc. Ce qui fait que Nelly est très vite partie donc, de France, parce qu'en fait, elle s'est dit, la Méditerranée est pourrie, j'aime la mer, mais je ne reste pas là. En gros, très bien. Et moi, je suis né la génération des pieds mazoutés. Au bord de la mer, qu'est-ce qui se passait? Les gens de ma génération, la mer sentait mauvais. On allait dans l'eau, on sortait, on avait des plaques noires partout. Donc au bout du compte, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit encore les séquelles de ces nuisances qui datent des années 60, 70, 80. Mais en fait, aujourd'hui, la Méditerranée, grâce aux scientifiques, donc en grande partie, et puis grâce aussi aux vecteurs d'information, est en train de se rééquilibrer, de se restaurer. Alors il n'est pas question d'occulter... Tous les côtés néfastes, donc du plastique, il y en a partout, c'est une vérité. Il y a des espèces qui ont reculé, il y en a d'autres qui arrivent, qui sont potentiellement envahissantes, etc. etc. Donc le tableau noir, il existe. En revanche, il y a beaucoup d'écosystèmes qui sont en train de se remettre en place, beaucoup d'espèces qui sont en train de se restaurer, de se repeupler comme ça. Il y a beaucoup de zones qui sont nettement plus propres qu'elles l'étaient dans les années 70-80. Donc moi, j'insiste là-dessus et je peux parler même au nom de Nelly. C'est-à-dire que oui, la Méditerranée a été très impactée. Oui, elle reste la mer la plus polluée de la planète, mais oui, elle est aussi résiliente. Et si on lui laisse le temps et si on l'aide quelque part à être résiliente à travers nos actions de communication, d'enseignement, d'éducation, à travers le travail des scientifiques et l'écoute des scientifiques, elle peut très très vite remonter. Et ce qui se passe sur la Méditerranée, c'est ce qui peut se passer à l'échelle de la planète. Voilà. Donc ça, c'est le côté, je dirais, très positif de ce challenge, parce que 407 km de nage, c'est une chose, mais il faut savoir qu'on a peut-être eu entre 500 et 700 en préparation. Donc au bout du compte, on a largement dépassé les 1000 km. Donc ça fait quand même un témoignage assez, assez riche, je dirais, sur toute cette zone-là. Alors pour information, le littoral PACA, si on le prend de l'embouchure du Rhône jusqu'à la frontière italienne, il fait presque 800 km. Donc 400, ça correspond donc à la moitié du trait de côte. Quand je parle de trait de côte, il faut imaginer toutes ces côtes découpées, hein, avec ces petites criques, ces petites calanques, et puis on tire un grand trait. Voilà, donc ça paraît, on ne s'imagine pas que ça puisse faire 800 km. Mais en fait, on a quand même 800 km de côte en PACA. Voilà. J'insiste bien sur ce côté très positif. Autre point, moi, cette aventure, j'ai envie de la dédier aux scientifiques qu'on a rencontrés, parce qu'il y aurait une dizaine d'intervenants dans le film, et il y en aurait des centaines. Mais je veux dire, les 10 intervenants qui sont là dans le film témoignent bien évidemment de ce qui ne va pas en Méditerranée, mais également donc nous montrent qu'effectivement, ils sont très attentifs. Ils sont réellement au chevet des écosystèmes. Donc des écosystèmes, et bien, effectivement, ils sont dans l'eau la moitié de l'année. Donc 6 mois de plongée, ça fait beaucoup. Puis après, le reste du temps, ils sont dans les laboratoires, très souvent. Donc ces gens-là, aujourd'hui, il faut vraiment les écouter. Il faut que les politiques, que les industriels les écoutent. C'est capital. Ce message est capital. Pourquoi ? Parce qu'on va focaliser sur la pollution plastique. C'est bien. OK, mais cette pollution plastique, elle date des années 50, 60, 70. Aujourd'hui, on en balance un petit peu moins dans l'eau. Et les gens sont quand même beaucoup plus attentifs. Donc au lieu de focaliser sur des campagnes, je dirais, de nettoyage qui parfois coûtent beaucoup plus cher, que à la limite d'autres actions, je dirais, qui sont favorables à l'environnement, il vaut mieux en amont éviter de produire ces déchets, de produire ce plastique. Et surtout éviter de faire culpabiliser, je dirais, le Pékin moyen, entre guillemets, qui lui s'efforce effectivement de faire les choses correctement et qui n'a pas toujours les moyens d'acheter des emballages qui sont bio, dégradables, etc. etc. Donc c'est tout ça, Posidonia, en fait. Et c'est également une multitude de gens qu'on a rencontrés sur le littoral, donc des gens qui sont là, des résidents à l'année, des vacanciers qui arrivent sur les ailes de saison, des associations, des écoles, qui se soucient réellement de leur cadre de vie. Il faut savoir que le bassin de population en bas, il est considérable. Nous, ici, dans nos Alpes, on fait 10 km, on est en pleine cambrousse. Donc c'est vrai que quand on sort, on se dit que c'est vachement propre par rapport à en bas. Mais pourquoi il n'y a personne ? Bon. Mais donc en bas, pour le coup, c'est proportionnel. Les gens se relèvent les manches. Et là aussi, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'on a été accueillis par des associations qui se bougent au quotidien à travers des radios, à travers les médias, qui organisent des groupes de nettoyage, des groupes de sensibilisation, etc. etc. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc c'est aussi cette aventure, Posidonia. C'est une aventure qui est très, très solidaire. Et c'était une belle récompense, même si, bien sûr, la Méditerranée est impactée. Ça, c'est clair. On ne peut pas l'enlever. J'ai peut-être parlé beaucoup. Je vais laisser la parole à Nelly, qui a certainement des anecdotes très sympas à vous raconter.
Ah oui, c'est sûr que les anecdotes, on va dire que ça ne manque pas. c'est ce qui est intéressant aussi quand on est tous les jours dans le milieu. Bon, d'abord, tous les jours, on a au moins un moment merveilleux, mais en vérité, il y en a beaucoup plus qu'un. Et il suffit simplement d'y aller. C'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai réalisé ces derniers temps, notamment sur nos dernières interventions, que les jeunes sur le littoral connaissent très très peu ce qui se passe sous la surface. Et je trouve ça très touchant, parce que ce qui se passe sous la surface, c'est un monde à part entière qui est absolument fantastique et qui mérite d'être regardé. Alors évidemment, il faut faire la démarche de mettre un masque et un tuba en été, parce que l'eau est chaude, et puis en hiver, c'est un peu plus compliqué. Il faut se couvrir. Mais c'est un monde fantastique. Sur les étapes de nage, on va dire, on rencontre un petit peu toujours les mêmes types d'espèces inféodées à leur milieu. Donc sur les herbiers de Posidonie, c'est des grands herbiers qui sont absolument fantastiques. Alors pour rappel, la Posidonie, hein, c'est une plante à fleurs qui vit sous l'eau en Méditerranée.
C'est pas une algue.
Voilà, parce que souvent les gens disent des algues, parce que c'est une plante à fleurs, donc comme toutes les plantes, elle perd ses feuilles. Et quand elle perd ses feuilles, les feuilles se retrouvent sur la plage. Et ça forme ce qu'on appelle des mattes. Ces mattes n'ont pas ce look qu'on a envie d'avoir, qu'on imagine d'une plage. Une plage en Méditerranée, c'est pas comme dans les Caraïbes. La plage de Méditerranée, elle n'est pas faite que de sable blanc. Elle est recouverte de mattes de Posidonie qui vont et qui viennent au gré des courants et qui sont transportées qui souvent vont déranger les personnes qui ne sont pas informées. Mais en fait, ces mâts de Posidonie, ce sont des superbes barrières contre l'érosion. Donc, à l'heure où on parle, on va dire, de la hausse du niveau des océans, une barrière contre l'érosion, il faut la chérir. En plus, la Posidonie, c'est une plante, c'est un super héros, hein, c'est la championne du monde de stockage de carbone. Mais elle a une croissance extrêmement lente, 1 cm par an, je crois, enfin, c'est vraiment très peu. Et quand on nage au-dessus d'un herbier, on a vraiment l'impression qu'on nage au-dessus d'une forêt. Sauf que les oiseaux, ce sont des poissons. Mais ça, c'est quelque chose d'assez magnifique. Et au printemps, alors moi, c'est une scène qui m'a particulièrement touchée. Dans les herbiers de Posidonie, on voit des impacts. Les impacts numéro un, ce sont ceux qui sont générés par les ancrages. Donc les personnes vont jeter leur ancre dans l'herbier, ce qui est strictement interdit. Et ça va arracher des parties de l'herbier et ça va créer des poches de sable. L'herbier mettra du temps à recoloniser la poche de sable. Moi, ce que j'ai pu apercevoir au printemps, et c'est ça que je trouve très touchant, il y a des poissons, on appelle ça, ça s'appelle des crénilabres. Alors les poissons, c'est une biologie assez différente de la nôtre. Beaucoup de serpents, de poissons commencent leur vie mâle et finissent femelle ou vice-versa. Donc ils ont un cycle de vie très différent. Et là, donc, c'est le crénilabre mâle qui fabrique son nid, un peu comme un oiseau, on le voit passer avec sa touffe d'algues dans la bouche, et il construit son nid circulaire avec un véritable rempart contre le courant, la direction du courant. Et ils vont créer leur nid dans ces zones justement où il y a eu des arrachages de mats, d'herbiers. Et moi je trouve ça très touchant parce que c'est vrai qu'on regarde toujours, oui, l'impact effectivement de l'ancrage, bon, le point de vue du poisson il est complètement différent. Hein. Effectivement, il y a un impact. Mais lui, il va voir quoi ? Il y a une clairière. Donc je m'installe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Et de voir ces crénilabres qui sont là, qui sont très, très occupés à faire leur nid, et finalement, ils s'en fichent complètement de la nageuse qui est en train de les filmer. C'est fantastique. Et c'est vrai que la Méditerranée a vraiment ses cycles saisonniers. Il y a des algues, là je ne parle plus des plantes, mais vraiment des algues, qui elles vont perdre une partie de leur corps, on va dire, pour simplifier, à l'hiver. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les feuilles qui perdent les arbres qui perdent leurs feuilles. Et c'est assez impressionnant. Donc on ne va pas avoir le même paysage. Donc au printemps, tous les poissons sont à fond et font leur nid. Dans les anecdotes fantastiques, il y a les poulpes. On sait très bien que les céphalopodes sont très, très, très intelligents. Mais quand on les voit en action, c'est encore autre chose. Quand je descends en apnée pour filmer un poisson, un poulpe ou autre, la méthode est toujours la même. Je veux déranger le moins possible. D'abord, parce que si on fait ça, c'est aussi parce qu'on a une éthique quand même. Et ensuite, quand on ne dérange pas, c'est là qu'on a les meilleures images. Donc, je descends avec une caméra lestée. Pas très loin de la créature en question que je veux filmer. Donc là, en l'occurrence, c'était un poulpe. Et je pose la caméra. Qu'est-ce qui se passe ? Le poulpe, dévoré de curiosité, il va descendre et il va essayer d'ouvrir le caisson. Sauf que, il y en a un qui a réussi à ouvrir le caisson. En 30 secondes, il a ouvert le caisson. Et moi, je trouve ça épatant. Parce que si là, je vous donne le caisson et que je vous dis, allez-y, en 30 secondes, ouvrez-le. Je vous mets au défi. C'est pas évident. Et il a trouvé la solution. Et ça fait partie des points en fait, que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Parce que ça focus sur l'intelligence animale. On n'y pense pas beaucoup. Mais c'est pas parce que c'est pas la même que la nôtre qu'elle n'est pas aussi importante, quoi. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps devant nous, parce que sinon j'ai beaucoup d'anecdotes. Hein.
Oui, on ne peut peut-être pas passer en revue toutes les anecdotes. Par contre, tout à l'heure, vous aviez mentionné les acteurs, les actrices locaux que vous avez rencontrés. Est-ce que vous voulez en parler un peu ? Qui vous avez rencontré ? Quel rôle ont pu jouer ces différents intervenants ?
Alors, on a privilégié quand même les scientifiques. Donc, il y a quand même pas mal de scientifiques. Donc, des grands pontes, on va dire, dont Monsieur Posidoni, c'est Charles-François Boudouresque, qui est vraiment un professeur émérite très très connu dans le monde de la biologie marine. D'autres scientifiques qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais également des associations. On a tenu en fait à mettre en avant le travail des associations. Alors j'en profite pour remercier du fond du cœur Carcérane Environnement, parce que c'est une association qui nous a accueillis à bras ouverts et que... Vraiment, vraiment de cœur. Ça fait partie des gens, en fait, qui donnent de l'espoir, quoi. Donc, on va les glisser dans le film, c'est évident. Il y a des plongeurs. Pourquoi ? Parce qu'un plongeur, il passe sa vie sous l'eau, il peut parler de ce qu'il a vu. clairement. Donc des plongeurs qui, eux, dans leur travail, ont une éthique aussi et une manière d'aborder le milieu, c'est-à-dire en gros, c'est pas des usines à bulles. C'est des gens qui vont vouloir amener les gens de manière, on va dire, à la fois sécurisée et prévenue sur la meilleure manière d'aborder le milieu. Parce que sur les secteurs qui sont très plongés, ben, quand il y a beaucoup de plongeurs qui viennent, ça peut vraiment, vraiment devenir une source de dégradation importante. Les gens qui font pas attention à la façon dont ils palment, par exemple, ou ceux qui vont braquer les poissons avec leur spot toutes les 5 minutes, bon, bah, c'est une vraie nuisance. Après, on a interviewé aussi une association qui s'appelle SOS Grand Bleu. En plus, ils ont un superbe navire, un vieux gréement, ils nous ont amené observer les cétacés au large du Cap Ferra, donc ça, c'est formidable. Ils font un travail de sensibilisation merveilleux. Et des gestionnaires aussi, par exemple le Conservatoire du Littoral. En gros, on a essayé vraiment de donner la parole en fait, à des personnes qui sont représentatives d'un type d'action et qui ont ils ont tous, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en les rencontrant, ils ont tous, on a tous convergé vers le même discours. Ils pourraient se résumer en un mot, hein, c'est résilience. C'est comme ça qu'on, c'est vers ça qu'on pointe finalement.
Je vais peut-être faire une petite parenthèse, parce que le littoral, la définition du littoral, on va dire que c'est l'interface terre-mer, tout simplement. Et là, on a beaucoup parlé du milieu marin-sous-marin, mais effectivement, il y a aussi le milieu terrestre, d'où l'intervention du Conservatoire du Littoral. Et là aussi, eh ben, le milieu, même s'il a été dégradé, parce que c'est vrai que ces 50-60 dernières années, bon, les paysages ont été complètement ravagés. Donc avec des ouvrages bétonnés un petit peu partout, il faut savoir qu'il y a 30 ans en arrière, il n'y avait pas de station d'épuration ou très peu de stations d'épuration, en fait que toute cette eau, toutes les eaux usées, je dirais, partaient directement à la mer. Bon, le plus connu, c'est l'émissaire de Cortiou dans les Calanques. Et c'est vrai que les Calanques sentaient mauvais donc, alors qu'on était sur le littoral. Bon, ben, tout ça, ça s'est aussi, je dirais, arrangé. Donc je crois, j'ai pas le chiffre en tête, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 10 ou 15 fois plus de stations d'épuration qu'il y a 30 ans. Je crois que le chiffre est faux, il est encore beaucoup plus optimiste que ça. Et ce qui fait qu'on ne peut pas non plus occulter la partie terrestre, le cordon littoral en lui-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, toutes les grandes agglomérations et toutes les petites agglomérations déversaient leurs égouts dans la mer. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, sauf exception. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est l'exception? Celle qu'on a vécue notamment à la fin de l'été, lorsqu'il y a eu des gros orages sur la zone de l'Estérel et de la Riviera, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, tous les ballons vont être surchargés. Alors ceux qui coulent directement de la colline vont amener donc des sédiments, des alluvions, ça va rougir l'eau, mais c'est pas gênant ça, puisque ça va amener de la matière. Par contre, il y a également ben, toutes les stations d'épuration qui là, elles, sont saturées. Et en fait, on a des débordements. Et pour le coup, là, ça va provoquer une pollution organique excessive et une pollution chimique excessive. Donc ce qui fait que la borne littorale sans mauvais, et ce qui fait qu'effectivement il y a une réelle pollution. Donc il y a des arrêtés de baignade, d'interdiction de baignade et tout qui sont pondus systématiquement. Mais ça, c'est très ponctuel. C'est-à-dire que si j'utilise cet exemple assez négatif, c'est pour montrer qu'au bout du compte, il y en a de moins en moins. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait intervenir aussi des gens, je dirais, qui apportent leur témoignage sur la partie terrestre. La bétonisation, la littoralisation, comme on dit, qui a tant massacré, entre guillemets, ben, la Côte d'Azur, tout simplement, parce qu'elle était tellement belle que tout le monde a voulu aller là-bas. Bon, ben, maintenant, effectivement, c'est une bande de béton. Ben, au jour d'aujourd'hui, avec la loi littorale, bon, on n'a plus le droit de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Bon, il y a encore quelques dérives et compagnie, mais mine de rien, le littoral terrestre, lui aussi, est beaucoup plus, beaucoup moins affecté qu'il ne pouvait l'être il y a une trentaine d'années de ça. Donc c'était un petit peu l'intérêt de Posidonia, c'est pour ça que tout à l'heure Nelly parlait de cette double vision, parce qu'elle, elle va parfois voir sous l'eau un territoire qui est très propre, donc avec des écosystèmes qui sont en train de se remettre en place, des herbiers qui sont en train de se refermer, de se densifier, etc., des espèces qui sont là en train de brouter, en train de frayer, etc. Alors que moi, en surface, eh bien, qu'est-ce que je vais voir? Toutes les séquelles, je dirais, des aménagements des années 60, 70, 80 et plus. Donc au bout du compte, en surface, c'est pas beau, sous l'eau, c'est beau. Et inversement. On va passer sur des secteurs comme un secteur qui est magique, hein, pour moi, c'est la Côte des Maures, la Côte des Maures, donc qui est vraiment qui est splendide au niveau de la partie littorale et qui, parfois, au niveau sous-marin, l'est moins et plus impacté. Donc, et c'est cette double approche, ce double témoignage donc, qu'on essaye de mettre en avant. Voilà. Il ne faut pas oublier que le littoral, c'est aussi ce qui se passe à terre. Et qu'en fait, en écologie, de toute façon, on ne peut rien dissocier de rien. Tous les écosystèmes sont imbriqués. Et plus les écosystèmes sont vivants, plus il y a d'interactions au sein d'un écosystème, plus effectivement, le milieu se porte bien dans son ensemble. Et il faut savoir qu'un écosystème en bonne santé, qu'il soit petit ou gros, bah, c'est une société, c'est une humanité en bonne santé. Bon, ce discours, on est tous en train de le prôner. Mais ce n'est pas une illusion, c'est réel, c'est chiffré, c'est quantifié. Voilà. Donc c'est encore pour moi un hommage à tous ces scientifiques qui sont là, qui sont vraiment au chevet de ces milieux-là.
Et ce sont des interventions que vous avez préparées en amont avant de vous lancer dans la nage, ou est-ce que ça s'est fait aussi au gré de...
Oui, alors dans l'écriture d'un film, l'écriture du film Posidonia, moi je l'ai attaqué en 2017 lorsque Nelly sortait de l'eau. À l'époque de la Dame des Lacs. Donc en fait, effectivement, il a fallu faire des choix, parce qu'au début, ben, on va prendre toutes les grandes têtes de chapitre, parce que comme on disait tout à l'heure, 52 minutes, c'est très léger. Les têtes de chapitre, c'est quoi ? C'est la pollution littorale, les stations d'épuration, la dégradation des habitats, des herbiers de Posidonie, etc., etc. On va chercher donc les meilleurs intervenants. Tous ne répondent pas, mais beaucoup répondent de manière positive. Et puis après, ben, on va sélectionner des réponses, en fait, des questions, pardon, assez simples, comme vous, ici, là, de façon à faire parler ces gens-là sur, effectivement, ces têtes de chapitre, quoi. Donc tout ça, c'est préparé à l'avance. Maintenant, dans un documentaire, il y a toujours une part d'inconnu. Et c'est vrai que ces gens-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, puisqu'ils passent leur vie sur une espèce, parfois. Et d'abord, on n'arrête pas d'en apprendre. Et puis du coup, après, c'est pas facile, parce qu'on a tellement d'éléments que le temps du montage, bon, quand il faut dérocher, quand il faut sélectionner les réponses aux interviews, ça prend des mois et des mois, quoi. Voilà.
Oui, il faut faire des choix.
On rappelle que donc, il n'y a pas seulement l'aventure, le challenge... sportif, mais qui a donc tout un suivi pédagogique qui accompagne ensuite la sortie du documentaire. Donc voilà, un petit mot sur où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux et comment ça va se poursuivre.
Alors c'est relativement simple, il y a deux vecteurs qu'on utilise, on est assez minimaliste. Il y a le site d'Octopus Productions, alors Octopus, ça s'écrit P-U-C-E à la fin, donc c'est un jeu de mots. On retrouve tout ce qu'on a fait en commun depuis 2017 dessus. Et évidemment, on répond à toutes les questions et avec plaisir sur des interventions possibles. Et pour les utilisateurs de Facebook, c'est la page Les Marcheurs de la Terre, Octopus Productions. On poste de manière assez minimaliste aussi. Hein. Donc, ce sont deux possibilités.
Après, il y a aussi un troisième site, on va dire, qui relate un peu les origines des Marcheurs de la Terre, donc avant cette histoire d'Octopus. Ben c'est le site Les Marcheurs de la Terre, le site officiel, tout simplement, et donc qui vous permet de remonter jusqu'aux années 80 avec les grandes expéditions des Marcheurs de la Terre et tous les exploits, parce que là, il y en a eu pour le coup pas mal, qui ont précédé donc cette aventure-là.
Et pour la sortie du film, on n'a pas encore la date. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il soit terminé avant l'été. Et après, c'est France Télévisions qui décidera des premières diffusions et on les annoncera.
Mais d'ici là, vous avez donc un suivi pédagogique, peut-être des ateliers
On peut déjà travailler, en fait, avec notre contenu. Donc, tous les bulletins de route, tous les vidéos qu'on a déjà postées, des mallettes pédagogiques, la présentation du matériel du challenge. Et puis, on travaille aussi avec nos autres documentaires, évidemment. Donc, on peut déjà travailler. Il suffit de demander. Et on peut créer, on va dire, des interventions sur mesure.
Peut-être un petit mot sur le passe culture.
Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Alors, c'est vrai que beaucoup l'ignorent, mais il y a un outil qui est formidable maintenant, qu'on a la chance de pouvoir utiliser, qui s'appelle le Pass Culture, qui permet en fait aux lycéens et maintenant aussi à certains collégiens de bénéficier, on va dire, d'une culture un peu plus large, qui est donc vraiment dans le cadre scolaire. Et comme on est dans le dispositif Pass Culture et référencé sur la plateforme Adage, s'il y a des enseignants qui ont envie de nous faire intervenir, on peut travailler avec ces bases-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent visionner nos films avec les élèves ou avec nous. Hein. On peut rencontrer les élèves dans les établissements, donc on peut venir, ou alors on peut également les amener sur le terrain, puisqu'on est accompagnateur en montagne, donc diplômé d'État, et on les amène sur les lieux du tournage. C'est une formule qui est géniale, parce que du coup, les jeunes travaillent vraiment avec nous sur quelque chose qui accroche, et on creuse un peu la question. Ce n'est pas un simple survol. Donc ça, c'est aussi une possibilité.
Ce qui est important de rajouter, c'est que le Pass Culture, en fait, donc tous les frais sont payés. En fait, l'enseignant, l'école, n'a rien à débourser, tout simplement. Il y a simplement prendre contact et poser un rendez-vous.
Bon, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la partie aventure pédagogique.
Merci beaucoup.
Merci. On vous remercie chaleureusement d'être venu témoigner du projet sur l'antenne de Fréquence Mistral. C'était le magazine régional à la bonne heure et on remercie Bruno Lambert et Nelly Kars pour leur intervention aujourd'hui sur le projet Posidonia. Bonne journée à toutes et à tous sur Fréquence Mistral.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.